La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est donc notre traditionnelle série spéciale bac jusqu'à jeudi dans la compagnie. À 3 semaines d'une épreuve qu'il n'est pas si facile de réviser car elle demande, en tous les cas pour la dissertation, un fond de culture littéraire qui aide à la réflexion, à l'organisation de la pensée et à la production d'exemples, une culture générale qui ne s'acquiert pas à la dernière minute, même si on peut toujours bachoter avec quelques œuvres très célèbres. Nous avons donc choisi de parler lundi, mardi et mercredi d'un roman et de deux pièces de théâtre qui sont parmi les plus utiles à avoir en tête. Jeudi, nous vous proposerons un exercice corrigé de dissertation et de commentaires de texte. Vous pouvez donc vous atteler, si vous le souhaitez, au sujet de la dissertation, dont voici l'intitulé « Dans un roman, les personnages ambitieux sont-ils les plus intéressants ?» Quant au texte à commenter, extrait de La Curée de Zola, il est disponible sur notre site. Mercredi, nous aurons révisé notre bataille d'Hernani, ce sera grâce à Olivier Decroix. Enfin demain, c'est Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, dont il sera question dans cette émission. Nous aurons pour invité Jean-Yves Guérin. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous parlons de Madame Bovary, roman essentiel de la littérature française, très utile en vue du bac de français. Nous le faisons avec Yvan Leclerc, professeur émérite de lettres modernes à l'Université de Rouen, directeur du Centre Flaubert. Il a collaboré à l'édition des œuvres complètes de Flaubert dans la Pléiade et en particulier au tome 3, où l'on trouve notamment Madame Bovary. On lui doit aussi l'essai intitulé Madame Bovary au scalpel, genèse, réception critique, publié en 2017 aux éditions Classique Garnier. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous. Je n'ai ni chaud ni froid et je m'ennuie beaucoup.
La Bovary m'assomme. Comme je regrette maintenant de l'avoir publié, tout le monde me conseille d'y faire quelques légères corrections par prudence, par bon goût, etc. Or, cette action me paraît à moi une lâcheté insigne, puisque dans ma conscience, je ne vois dans mon livre rien de blâmable au point de vue de la morale la plus stricte. Voilà pourquoi j'ai dit à Lévy de tout arrêter. Je suis encore indécis. Oh, je sais bien tout ce que vous allez me répondre. Avouez au fond que vous pensez comme moi, cependant. Et puis, l'avenir, quoi écrire qui soit moins inoffensif, sic, que ce roman ? On s'est révolté d'une peinture impartiale, que faire ? Biaiser, blaguer ? Non, non, mille fois non. J'ai donc fort envie de m'en retourner pour toujours dans ma campagne et dans mon silence, et de là continuer à écrire pour moi seul. Je ferai des livres vrais et corsés, je vous en réponds. L'insouci de la renommée me donnera une roideur salutaire. J'ai beaucoup perdu cet hiver, je valais mieux il y a un an. Je me fais l'effet d'une prostituée.
Lecture d'une lettre de Flaubert à Frédéric Baudret par Michel Bouquet. Bonjour Yvan Leclerc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors visiblement, le roman Madame Bovary a été une épreuve pour Flaubert durant l'écriture, mais aussi après sa publication. C'est ce qu'on comprend dans l'extrait qu'on vient d'entendre.
Alors c'est un extrait qui se trouve entre deux moments importants. Flaubert a été inculpé pour ce roman, mais il a été acquitté, blâmé mais acquitté. Et entre le moment où il a été acquitté après la prépublication dans la Revue de Paris et puis le moment où il va publier son roman chez Michel Lévy, c'est là que se trouve cette lettre. Et précisément, il se demande ce qu'il va faire après ce premier procès, parce que la publication chez Michel Lévy pourrait entraîner un deuxième procès. C'est pourquoi ses amis lui conseillent de revoir son texte, ce qui peut faire problème à l'intérieur de son texte, et que lui-même hésite lorsqu'il dit qu'il n'y a rien de blâmable. La Bovary l'assomme parce qu'il ne sait pas. Alors, il est coincé entre le fait de conserver tout ce qu'il a pu écrire, et en même temps, à partir du moment où son roman est passé par le réquisitoire du procureur impérial Pinard, il a l'impression que certains éléments ont été pointés du doigt, qui sont sortis du roman, qui font tache à l'intérieur et qu'au fond, ils ne peuvent plus être lus d'une manière qui soit intégrée à l'ensemble de l'œuvre. Au fond, il est évidemment content d'avoir été acquitté parce qu'il va pouvoir publier son roman, mais il pense que là, il va y avoir un succès de scandale et un succès qui va être celui du malentendu. Il voulait faire une œuvre d'art et il a la société a réagi en l'inculpant, en considérant la moralité de l'œuvre, alors que Flaubert voulait faire une œuvre d'art qui était séparée de la morale.
C'est peut-être un livre aussi difficile à comprendre profondément.
C'est un livre qui peut être simple à première lecture, mais qui, effectivement, est un livre à double fond. C'est un livre très, très ambigu sur la personnalité, par exemple, du personnage, sur le rapport qu'il y a entre le lyrisme et la vulgarité. Flaubert dit que c'est un livre impossible à écrire parce qu'il est constamment sur une crête entre le lyrisme et la vulgarité. Et puis, c'est un livre aussi qui lui pose beaucoup de problèmes d'écriture, dans la mesure où il veut faire un livre vrai, en même temps un livre artistique, et où cherche cette équation impossible que serait le mot juste et le mot musical à chaque fois. Il faut que ce soit travaillé comme le vers, dit-il, aussi inchangeable que la phrase, soit aussi inchangeable qu'un vers. Et en même temps, il importe évidemment dans le roman des éléments de la réalité la plus constante ou la plus vérifiable.
Alors, est-ce que Flaubert est allé jusqu'à désirer, étant très agacé par la Bovary, désirer que ce livre disparaisse et que le manuscrit aussi disparaisse, selon vous, Yvan Leclerc?
Alors, il le dit, mais sur le mode évidemment de la virtualité, de l'impossibilité. Flaubert est resté toute sa vie l'homme de ce premier roman qui le rend célèbre d'un jour à l'autre, avant 35 ans, il n'a rien publié. Il a beaucoup écrit, mais il n'a pas publié. Et les autres romans qu'il va publier donc par la suite vont toujours être rapportés à celui-ci. D'une certaine manière, il reste l'œuvre d'un seul et unique roman. Et ça, ça l'agace beaucoup. Il a l'impression que, il dit que s'il pouvait racheter tous les exemplaires en circulation de Madame Bovary, il le ferait de façon à ce qu'on ne lui parle plus de son roman. De la même manière, il dit qu'il aimerait être enterré avec son manuscrit. Pour que ce manuscrit disparaisse, ça aurait bien été dommage d'ailleurs, parce qu'on aurait privé les généticiens d'un matériau
comme
extraordinaire,
vous, par exemple.
4500 pages. Mais oui, on a mis en ligne ce manuscrit, 4500 images, autant de transcriptions, sur le site de l'université, bovary.fr. Alors j'engage d'ailleurs les candidats qui vont pas avoir le temps de lire les 4500 pages, bien évidemment, mais allez voir la scénographie d'une page, enfin comment une page se présente, à quel point Flaubert rature ces pages. Et puis, ils peuvent aller lire dans la partie plan et scénario, puisque Flaubert programme énormément son travail, pendant 2 ou 3 mois avant de se mettre à faire des phrases. Ils peuvent aller lire le premier scénario qu'on a conservé, qui tient en une page et demie, où il y a en résumé déjà la totalité du roman. Ça s'appelle déjà Madame Bovary. Il y a déjà Charles, il y a 2 amants, Emma ne s'appelle pas encore Emma, elle s'appelle Marie, Maria, Marietta, elle joue sur son nom, ce qui est déjà un signe de bovarisme et de désir d'être autre qu'elle n'est. Il n'y a pas Homais, mais il y a déjà, on termine avec la pauvre petite fille qui va aux écoles gratuites.
Donc malentendu sur la réception de ce livre, Madame Bovary, qu'en est-il aujourd'hui? Et qu'en est-il en particulier pour les élèves de première et peut-être aussi de terminale quand ils sont dans la série L? Avez-vous le sentiment qu'on peut lire Madame Bovary avec autant de plaisir qu'on le lisait il y a encore quelques décennies? Autrement dit, est-ce que vous pensez que c'est un livre qui a vieilli aujourd'hui pour les jeunes générations?
Probablement pas. Alors, ce qui a vieilli, c'est un certain nombre d'aspects. Par exemple, le fait que Emma est prisonnière du mariage. Le divorce n'existe pas. En 1800, dans les années 40, jusqu'à 46, puisque Emma meurt en 46, d'après la chronologie qu'on peut reconstituer, il faudra attendre la fin du siècle pour que le mariage existe.
Donc ça ne choque plus, par exemple, aujourd'hui?
Ça ne choquerait plus, et du coup, l'enfermement dans le mariage n'est plus d'actualité. Autre chose qui a un peu vieilli, c'est évidemment le poids de la religion. Dans le roman, qui est tout à fait considérable. Et puis, la différence qu'il y a entre la vie de province et la vie parisienne. Le roman de Flaubert est sous-titré « Meurt de province ». Emma est enfermée dans sa province. Paris est loin. Paris, elle n'ira jamais à Paris. Elle rêve de Paris, elle n'ira jamais. Évidemment, cette séparation aujourd'hui qui existe toujours, on parle de zone blanche géographique, mais il y a moins de distance entre les mœurs de province et les mœurs parisiennes. Évidemment, Flaubert emprunte cette opposition à la comédie humaine et à l'organisation de la comédie humaine de Balzac. Donc ça, ce sont des aspects qui ont évidemment vieilli. En revanche, qui n'a peut-être pas vieilli, c'est le mal-être. le malaise du personnage principal. On dirait aujourd'hui qu'elle est dépressive. Alors cette dépression-là, évidemment, on pourrait la retrouver. Ce qui est aussi peut-être d'actualité, c'est l'aliénation d'un personnage à des modèles d'identification. Alors Emma, c'était les modèles de la littérature romantique. Aujourd'hui, il faudrait les trouver ailleurs. Il faudrait les trouver, je sais pas, dans la publicité,
dans tous les mythes actuels.
Dans les mythes actuels, les mythes modernes.
Les stars de cinéma ou de télévision, par exemple, et leur vie.
Existe toujours. On pourrait voir aussi l'actualité dans le rapport à l'argent. Emma est une consommatrice. Le mot consommation, ou le verbe consommer, se trouve dans le roman. D'une certaine manière, Madame Bovary est le premier roman de la consommation moderne. Alors j'engage les lycéens, les candidats au bac, à aller voir sur YouTube le résumé en 3 minutes du roman par Jean Rochefort dans la série qu'il appelle « Les bolos des belles lettres », qui est fort bien faite en deux parties. Il y a d'abord l'ennui, ensuite l'argent. L'ennui, une phrase que tous les jeunes comprennent, elle a le seum de la vie, Emma. Et l'argent, Rochefort dit que, pour actualiser les choses, que Emma, au fond, serait aujourd'hui une cliente de CTLM et de Sofinco.
Oui, elle aurait peut-être un compte aussi, plusieurs comptes sur plusieurs réseaux sociaux.
Voilà, on peut penser qu'elle serait surendettée. Et ce oui, rôle de l'argent et ce rôle de l'intérêt pour l'avoir, l'avidité de l'avoir qui compense un manque à être, c'est quelque chose qui peut parler aujourd'hui. Il y a une dernière chose qui pourrait intéresser les jeunes d'aujourd'hui, c'est la question du féminisme et celle du brouillage des sexes qui est à l'intérieur de qui se pose à l'intérieur du roman.
Et de la masculinité chez Madame Bovary.
Tout à fait. Alors il y a à la fois il y a une lecture féministe possible du roman en tant que revendication d'une condition sociale au XIXe siècle. Et puis Flaubert, en faisant ce personnage de femme, brouille les pistes, en particulier avec cette phrase extraordinaire, où il inverse, il met la domination du côté féminin, alors que tous les hommes qui sont autour d'elle lui sont subordonnés. Et il y a une phrase extraordinaire à propos de Léon, « Il devenait sa maîtresse plutôt qu'elle n'était la sienne ».
C'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez. Vous êtes bien sur France Culture. Parlons un peu, Yvan Leclerc, de la fabrication de ce roman, Madame Bovary. On sait qu'il a commencé à l'écrire, Flaubert, ce roman en septembre 1851, à Croisset, près de Rouen, qu'il l'a achevé en avril 1856. Ce sont donc 4 ans et demi de travail. Comment lui est venue l'idée de ce personnage d'Emma Bovary? Parce qu'au fond, il aurait peut-être pu prendre d'autres sujets qui lui auraient permis la même démarche artistique.
Oui, la genèse est un peu compliquée. Au fond, quand Flaubert se met à Madame Bovary, il écrit un peu contre lui-même. Sa tendance, c'est le lyrisme, c'est l'intérêt pour les hallucinations, les visions, l'Orient et les religions antiques. Là où il se sent chez lui, comme il dit, c'est dans la Tentation de Saint-Antoine. La Tentation de Saint-Antoine, dont il a écrit une première version avant de partir en Orient, en 49, et à la lecture, ses amis Bouillet et Ducamp lui disent que c'est pas bon, qu'il faut mettre ça dans les tiroirs. Et d'après le témoignage de Ducamp, son ami Bouillet lui aurait dit « mais prends donc un sujet terre à terre ». Or, cette deuxième tendance de Flaubert, qui est ce qu'il appelle regarder la réalité avec des yeux de myope, hein, le sujet terre à terre, ça c'est quelque chose qu'il s'impose à lui-même comme une sorte de défi. D'où vient le personnage de Madame Bovary? Alors, il l'emprunte évidemment à ses rêves romantiques de jeunesse. Il y a un antécédent dans
c'est là où il faut comprendre la célèbre phrase « Madame Bovary, c'est moi ».
Oui, alors si vous me donnez une heure, je pourrais vous expliquer, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais il y a effectivement une partie de projection ou d'introjection du personnage par rapport à l'auteur dans ce sens-là. Et ce qu'il... Et donc l'origine, c'est Au fond, le grand problème qui se pose, en particulier quand il est en Orient, c'est quel rapport il y a entre la sensualité et le mysticisme. Et il tourne autour de ces sujets-là, qui sera aussi le sujet de Salammbô, puisque le personnage de Salammbô est une prêtresse de Tanit, donc une religieuse et en même temps qui va découvrir la sexualité avec Mato. Et au fond, dans ce personnage-là, il tourne aussi d'un projet autour de Don Juan. Il a envie d'écrire un roman sur Don Juan qui serait la rencontre entre le personnage sensuel et puis une personnage de religieuse.
Donc le sujet amoureux quand même est toujours présent.
Voilà, et dans Madame Bovary, il va y avoir un mélange, effectivement, qui va d'ailleurs choquer les contemporains, un mélange entre la religion, le mysticisme du personnage et puis la sensualité.
Alors, il faut rappeler aussi un petit peu le contexte historique. L'action principale est supposée se dérouler dans les années 1830-1840. Hein, c'est sous le règne de Louis-Philippe. C'est important peut-être aussi cet arrière-fond-là.
Oui, on est dans la monarchie juive. Alors, ce qui est un critère de la littérature réaliste, c'est que on est ancré dans un territoire, la Normandie, hein, mur de province, et on est ancré dans une période historique. Ceci dit, il n'y a pas de repères historiques extrêmement précis et il n'y a pas de rappel d'événements historiques. On sait simplement que ça se termine avant 48, puisqu'il n'est pas question des événements 48, de 48 à l'intérieur du texte. C'est un roman moderne, puisque Flaubert l'écrit 10 ans après les faits supposés s'être produits. Et alors, ce qui est important pour la monarchie de Juillet, l'époque de la monarchie de Juillet, c'est que c'est le triomphe de la bourgeoisie. Or, Flaubert se donne pour sujet la bêtise et la médiocrité petite bourgeoise, hein, vue à travers la campagne. Et ce qu'il met en conflit, ça va être les rêves poétiques du personnage des Bas avec l'irruption du prosaïsme de la vie quotidienne, de la vie sociale de ce petit bourg de Yonville. Donc là, on est bien effectivement à l'intérieur de cette période. Maurice Agulon a montré également que quelqu'un comme Homais était un personnage important parce que c'est en lui que se dessinent les bourgeois de province qui vont prendre le pouvoir.
Donc Homais, c'est le pharmacien.
Le pharmacien Homais, qui va représenter la bêtise satisfaite d'elle-même à l'intérieur du roman. Mais c'est lui qui va triompher à la fin du roman. Il vient de recevoir la croix d'honneur, c'est-à-dire la légion d'honneur. Et au fond, à travers son personnage, se dessine cette catégorie sociale qu'on appelle les capacités, ceux qui n'ont pas le pouvoir, qui commencent à avoir du pouvoir par le régime censitaire, hein, avec l'instauration ensuite du suffrage universel uniquement masculin pour l'époque. Et c'est lui qui va prendre le pouvoir socialement dans les années à venir.
D'ailleurs, Homais et Emma, ce sont deux patronymes qui se ressemblent par leur sonorité. Oui. Est-ce qu'ils sont, d'une manière ou d'une autre, en miroir, ces deux personnages?
Tout à fait. Alors, ils partagent au moins quelque chose qui est la croyance aux idées reçues. Aux idées reçues qui sont signalées par les italiques dans le texte. Alors, il y a un moyen d'entrer dans le texte tout à fait intéressant qui serait de feuilleter le roman, ça ce serait peut-être après qu'on l'a lu, la dernière révision, et ne regarder que ce qui est en italique. Il y a une centaine de passages en italique et on s'aperçoit que l'idée reçue est partagée à égalité entre tous les personnages. Homais, c'est les idées reçues du bon sens bourgeois, alors que Emma, évidemment, et dans les idées reçues de la littérature romantique. Mais ça, il partage cette croyance, au fond, à la force du langage et à la puissance du langage. Simplement, ils se réfèrent pas au même discours.
Si on fait un tout petit peu de biographie, ce que Flaubert n'aurait absolument pas aimé, qu'est-ce qui résonne, selon vous, par exemple, dans cette détestation des idées reçues, avec la personne de Flaubert lui-même?
Alors, Flaubert a depuis toujours, depuis les années 45-46, et il en parle dans au moment de son voyage en Orient, et ce sera un projet qu'il mènera jusqu'à Bouvard et Pécuchet, puisque cet ouvrage-là aurait dû figurer dans la deuxième partie non écrite de Bouvard et Pécuchet, Flaubert meurt avant, c'est le dictionnaire des idées reçues. C'est-à-dire qu'il a passé toute sa vie à relever des fragments du discours social qui lui paraissaient insupportables parce que prétentieuses, parce que affirmant une posture d'autorité. Et là, on en retrouve une centaine d'exemples à l'intérieur de Madame Bovary déjà. Par exemple, dans le procès même de la littérature et du roman, qui est instruit par la mère de Charles, par Homais ou par le curé bournisien. On trouve dans le dictionnaire des idées reçues, à l'entrée roman, attention, c'est dangereux pour les masses, et en particulier pour les femmes. Or, cette idée reçue-là est développée dans Madame Bovary.
Alors, on l'écoute justement dans un extrait lu par Guillaume Gallienne.
Effleurons et voyons en passant ce que l'on trouve dans la plupart des auteurs modernes. Des cavernes, des spectres, des ruines, des cimetières, des faux-monnayeurs, des clairs de lune, que sais-je. Toutes sortes de tableaux lugubres et qui prédisposent à la mélancolie. Puis ajouter que ces produits fiévreux d'imagination en délire sont entachés de néologismes, d'expressions barbares, de mots baroques, si bien qu'on est obligé de se casser la tête pour les comprendre. Car moi, je vous avoue que souvent, je ne comprends pas vos auteurs à la mode. Et je ne dis point les petits, non, mais les plus célèbres, ceux qui ont de la réputation. Et je le répète encore une fois, je ne serais pas surpris le moins du monde que ces inventions où le bon goût et les mœurs sont si audacieusement outragés ne finissent par révolutionner jusqu'à l'organisme lui-même. Tout cela, bien entendu, ne s'adresse nullement à Madame Bovary, qui certainement est une des dames que je considère le plus. Non! Non, s'écriait Madame Bovary mère en agitant ses gencives aiguës. Ce que vous dites est plein de jugement, monsieur Homais. Mais ces livres dont vous parlez font voir l'existence en beau. Puis quand on arrive à la réalité, on trouve du désenchantement. Et c'est cela, j'en suis sûr. Elle enrage de savoir qu'elle n'a pas raison. Et je la connais bien. Oh oui, je la connais bien, ma belle-fille.
C'est donc bien dans les livres qu'il faudrait chercher la source de tous les malheurs d'Emma Bovary, en tout cas ce que semble penser son entourage, en l'occurrence sa belle-mère et le fameux pharmacien Monsieur Homais. Qu'est-ce que vous retenez de ce passage qu'on vient d'entendre ?
Alors, qu'il y a, le procès de la littérature est fait par tout le monde. La littérature ne trouve aucun défenseur dans le roman. Et Flaubert, d'une certaine manière, anticipe le procès qui va lui être fait en le mettant en abîme à l'intérieur du roman lui-même. Il y a un autre passage où, alors je ne sais plus si c'est le pharmacien ou la mère, qui dit que la littérature est un véritable poison, que ceux qui prêtent des livres, puisqu'à l'époque, on empruntait les livres dans les cabinets de lecture, devraient être mis en prison parce que ce sont des criminels. Or, ce qui est intéressant, c'est que quand Emma va s'empoisonner donc à l'arsenic, elle va vomir un liquide noir. Flaubert compare ce liquide à de l'encre, comme si Emma avait été empoisonnée par la littérature qu'elle avait absorbée elle-même.
Et en même temps, est-ce que ce n'est pas un peu vrai ? Est-ce que Emma n'a pas été empoisonnée, non pas tant par la littérature, mais par sa manière de lire les livres ?
Voilà. On dit en général qu'Emma n'est pas... le problème n'est pas les livres qu'elle lit, mais la manière dont elle les lit. C'est-à-dire qu'au fond, elle va demander à la réalité, à la vie réelle, d'être à la hauteur de la littérature. Bizarrement, Flaubert la présente quand même comme un esprit positif, un esprit réaliste. C'est-à-dire quand elle lit des livres qui parlent de la campagne, comme la campagne, elle en est originaire, elle n'est pas sensible à la poésie bucolique. En revanche, elle est sensible à la poésie qui présente le monde sous un jour sublime. Et ce qui est intéressant, c'est que, au fond, il y a dans le roman une sorte d'opposition entre des figures de style et des niveaux rhétoriques. Flaubert a appris à l'école la roue de Virgile, qui hiérarchise les styles en trois catégories. Le style élevé ou sublime, le style bas, et puis au milieu, le style médiocre ou le style moyen. Or, Emma rêve constamment de sublime. Elle rêve d'événements exceptionnels. Elle rêve d'aristocratie, qui représente évidemment la classe sublime sous la monarchie de Juillet, alors qu'elle est constamment confrontée à un entourage qui, lui, est sous le signe de la médiocrité. Et c'est ce conflit-là qui, évidemment, est mortifère pour Emma.
Donc c'est mortifère pour elle, mais l'auteur la fait-elle passer pour un personnage stupide ou pensez-vous que Flaubert a une certaine empathie avec son personnage et considère qu'elle est aussi victime, finalement, de quelque chose ?
C'est là où le livre est très ambigu. Flaubert pratique ce qu'il théorise comme étant l'impersonnalité, c'est-à-dire que normalement, il n'intervient pas dans le livre pour juger les personnages. Alors, on s'aperçoit qu'il y a énormément de contraventions à ce contrat, ne serait-ce que le « nous » initial. Nous étions à l'étude, puisque le narrateur intervient à titre personnel à l'intérieur du roman. Il intervient aussi à travers des maximes généralisantes. Quand il dit, par exemple, quand il parle de la lâcheté naturelle qui caractérise le sexe fort, c'est une formule au présent et donc prise en charge par le narrateur. Et puis, il va introduire, non pas en l'inventant, mais en le systématisant, ce qu'on appelle le style indirect libre. Alors, on n'a pas le temps de décrire ce style indirect libre, mais je pense que c'est clair dans l'esprit de nos candidats au bac, qui permettent de mêler la voix du personnage et la voix du narrateur. Et là, on s'aperçoit que le narrateur prend des distances plus ou moins empathiques, c'est-à-dire sympathiques ou plus ou moins ironiques, et le plus souvent ironiques, avec son personnage, de façon à en dénoncer la fausse conscience, l'illusion que le personnage se fait sur lui-même à travers ce qu'il pense être ou la représentation qu'il veut donner de lui-même. Et donc on a ce jeu constant avec, il n'y a pas de commentaires sur les personnages, c'est-à-dire il n'y a pas d'avis qui serait développé, hein, il n'y a pas d'intervention du narrateur véritablement caractérisée. Mais il y a toujours ce jeu un peu entre ce jeu J.E.U. avec le personnage qui est mis à distance et qui est jugé comme par rapport à sa fausse conscience.
Parce que si c'est une mauvaise lectrice Emma Bovary, c'est peut-être aussi qu'on lui a mis au départ, quand elle était au couvent, les mauvais livres entre les mains. Et Flaubert raconte donc qu'au couvent, les romans qu'elle lisait n'étaient qu'amour, amant, amante, dame persécutée s'évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu'on tue à tous les relais, chevaux qu'on crève à toutes les pages, forêts sombres, troubles du cœur, serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignols dans les bosquets, messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l'est pas, toujours bien mis, et qui pleurent comme des urnes. On est donc dans le mythe, mais est-on responsable soi-même de vivre dans un mythe? C'est un personnage tout de même tragique, car elle ne peut pas sortir de sa condition, car elle n'a pas conscience de vivre dans un mythe, Yvan Leclerc.
Oui, mais dans ce que vous avez lu, il y a l'énumération de tous les clichés, de tous les clichés romantiques. Alors, là où Emma lit mal, c'est qu'au lieu de lire un livre prenant en compte sa dimension esthétique, c'est-à-dire au lieu de le lire comme une œuvre d'art, elle le lit pour ce que Flaubert appelle la consommation immédiate de son cœur, en le rapportant à elle-même. Il parle encore d'un tempérament plus sentimental qu'artiste. Au fond, le drame d'Emma, ce qui la distingue de Flaubert, c'est qu'elle ne fait rien de cette lecture-là. Mmh. Elle n'est pas devenue une artiste. Elle souffre de fausse poésie, dit Flaubert dans une lettre. Et c'est ça qui la condamne au fond. C'est d'essayer de vivre à l'intérieur d'une bulle imaginaire.
On va continuer de parler de tout ça avec vous, Yvan Leclerc, juste après la chronique d'Eva Le Sceau.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Eva Le Sceau, professeure agrégée de lettres modernes au lycée Christophe Colomb de Sucy-en-Brie. Bonjour Eva.
Bonjour Mathieu.
Et en écho à notre sujet du jour, vous vous demandez pourquoi les métaphores employées par Flaubert peuvent parfois paraître très prosaïques.
Oui, je souhaiterais aujourd'hui parler des métaphores et plus généralement des images qui sont présentes dans Madame Bovary, en partant pour cela d'un jugement émis par Proust en 1920 dans un article très fameux intitulé « À propos du style de Flaubert ». Dans cet article, Proust écrit « Il n'y a peut-être pas une seule belle métaphore chez Flaubert. Bien plus, ces images sont généralement si faibles qu'elles ne s'élèvent guère au-dessus de celles que pourraient trouver ses personnages les plus insignifiants. » On l'entend, le jugement est sévère, mais il se trouve aussi être assez juste, et l'on peut alors s'interroger sur les raisons qui expliquent le caractère parfois très trivial des images employées par Flaubert. On peut bien sûr, d'une part, suivre Proust et considérer que Flaubert se met au niveau de ses personnages en adoptant leur point de vue sur le monde, ce qui donne des images assez pauvres, voire très clichés. C'est ainsi que la mentalité petit bourgeois des personnages de Madame Bovary ne cesse de réifier les sentiments, les émotions et les personnes. Ainsi, Léon, le premier amour d'Emma Bovary, devient pour elle, après son départ, le tapis qu'il a foulé et les meubles vides sur lesquels il s'est assis. De même, le vicomte avec lequel Madame Bovary danse lors du bal de la Vaubyessard est réduit à un étui à cigarettes trouvé sur la route, dont on ignore même s'il lui a appartenu. Les objets sont donc dotés d'une valeur sentimentale et incarnent les personnages, mais les éléments abstraits sont aussi réifiés. Ainsi, après la naissance de Berthe, le narrateur nous dit ironiquement de Charles Bovary « Il connaissait l'existence humaine tout du long et il s'y attablait sur les deux coudes avec sérénité. » L'existence se transforme donc pour Charles en une table, ce qui vient souligner la platitude de la vie du personnage. En parallèle, la volonté féminine est pour Emma Bovary comme le voile d'un chapeau retenu par un cordon et qui palpite à tous les vents. La trivialité de l'image qui fait de la volonté un voile de chapeau n'est d'ailleurs ici peut-être motivée que par l'allitération en V qui vient relier les termes volonté, voile et vent. Chaque élévation, donc, chaque abstraction, se voit ainsi rattrapée par une image qui la matérialise et lui donne une pesanteur en la transformant en objet, et cela probablement parce que les personnages évoluent dans un univers qui est lui-même surchargé d'objets.
Et le fournisseur principal de ces objets qui envahissent l'espace du roman, eh bien c'est Monsieur Lheureux, le vendeur de nouveautés.
Oui, le personnage de Monsieur Lheureux, qui est donc marchand de nouveautés, comme vous le rappelez Mathieu, fournit les objets concrets du roman. Monsieur Lheureux, d'une certaine manière, se fait l'égal des amants de Madame Bovary, puisqu'il entretient avec elle une relation commerciale suivie, parfois cachée à Charles, et qui lui permet d'assouvir sa passion de consommation. Monsieur Leclerc a tout à l'heure parlé de Madame Bovary comme le premier roman de la consommation et on le voit bien dans cette relation entretenue entre Madame Bovary et Monsieur Lheureux. C'est ainsi lui qui la conduira à la ruine et à la mort, la dépense économique devenant dans le roman dépense vitale.
Donc on pourrait dire que c'est Monsieur Lheureux qui fournit finalement une partie des images triviales qu'on trouve dans ce roman, Eva ?
Oui, dans une certaine mesure, on peut blâmer Monsieur Lheureux pour certaines images triviales. C'était d'ailleurs probablement lui qui avait vendu à Emma le tapis qu'elle avait offert à Léon, et donc sûrement contribué à la transformation de Léon en un tapis, comme on l'a vu précédemment. Les images convoquées dans le roman semblent donc se limiter au monde connu par les personnages.
Alors pour revenir à votre point de départ, Eva, est-ce qu'on peut dire que Proust a raison de dire que les images de Flaubert sont entre guillemets limitées ?
Oui, Proust a raison, mais c'est finalement Flaubert lui-même qui propose la meilleure justification à la limitation des images qu'il emploie. Ainsi, lorsqu'est évoquée l'incapacité éprouvée par Rodolphe à voir la singularité d'Emma et sa lassitude quant au romantisme exacerbé de celle-ci, le narrateur semble justifier les élans de son héroïne en écrivant donc « comme si la plénitude de l'âme ne débordait pas quelquefois par les métaphores les plus vides, puisque personne jamais ne peut donner l'exacte mesure de ses besoins, ni de ses conceptions, ni de ses douleurs, et que la parole humaine est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours quand on voudrait attendrir les étoiles ». L'image triviale rattrape ici aussi la voix narrative dans une comparaison musicale tonitruante qui dit la limitation du langage. Dès lors, puisqu'il est difficile de traduire l'expression du moi intime, les objets et les images concrètes prennent le relais pour dire les sentiments, les émotions, les rêves et les peurs des personnages. S'il n'y a donc pas de belles métaphores chez Flaubert, c'est sûrement parce que les images triviales permettent de dire plus justement la dégradation de toute chose et la pesanteur du réel auxquelles on ne peut échapper.
Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose, Yvan Leclerc, à cette démonstration sur le style
non,
de Flaubert
oui,
et l'emploi des images?
Simplement, la différence entre Proust et Flaubert, c'est que Proust veut une métaphore qui soit esthétisante, prise en charge par le narrateur, alors que Flaubert non.
On dit tout le temps que Flaubert a un style admirable aussi.
Oui, mais justement, Proust ne voit pas que Flaubert fait exprès de ne pas élever la métaphore ou le comparer dans la comparaison. Au-dessus du personnage, c'est l'expression qu'il utilise, hein, il ne s'élève guère, la métaphore oui. Ne s'élève guère au-dessus des personnages. Mais c'est volontaire, de façon à enfermer le personnage par des éléments prosaïques portés par le comparant, c'est-à-dire le terme, pardon, j'ai inversé tout à l'heure, j'ai dit comparé au lieu de comparant. Hein. Le comparé, c'est la réalité de base, et puis le comparant, c'est l'élément qui va être apporté après le com. Bon, il emprunte le comparant à l'univers du personnage de telle manière qu'il l'enferme. Quand on parlait tout à l'heure d'Emma qui voit toute l'amertume de l'existence servie sur son assiette. Rien de plus enfermant que ce cercle. L'image du cercle, d'ailleurs, est constante dans Madame Bovary. Hein, parce que le personnage est constamment rabaissé ou dégradé, comme vous le disiez. Et le lien entre comparé et comparant, c'est souvent le lien entre une aspiration poétique et puis une manière d'être rabaissé par du prosaïque qui arrive en contrepoint du rêve du personnage.
Est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi, Eva, selon vous, une espèce de peur de Flaubert d'être lui-même atteint de bovarisme, c'est-à-dire en faisant des images trop lyriques, de devenir lui-même un romantique? Peut-être que c'est d'ailleurs justement ce qu'il essaye de fuir en écrivant ce roman.
Oui, tout à fait. Et il est même parfois rattrapé par ces images, puisque dans l'extrait que j'ai cité vers la fin de ma chronique, il y a quand même cette comparaison, c'est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours quand on voudrait attendrir les étoiles. Là, on est en plein romantisme et la tentation est constante. Et c'est peut-être pour ça, oui, qu'il insiste en général sur les images plutôt triviales pour se réfréner et empêcher ce romantisme de toucher aussi.
Merci beaucoup, Eva Le Sceau, pour cette analyse donc du style de Flaubert dans Emma Bovary, dans Madame Bovary. Je rappelle que vous êtes agrégée de lettres modernes et professeure de français au lycée Christophe Colomb de Sucy-en-Brie. Écoutez bien la compagnie des auteurs sur France Culture. Nous révisons le bac de français cette semaine avec quelques-unes des œuvres les plus données à l'examen. Aujourd'hui, Madame Bovary de Flaubert, dont voici un nouvel extrait lu par Guillaume Gallienne.
Les affaires d'argent le préoccupaient. Il en avait tant dépensé pour les toilettes de madame et pour le déménagement que toute la dot, plus de 3000 écus, s'était écoulé en 2 ans. Un souci meilleur vint le distraire, à savoir la grossesse de sa femme. À mesure que le terme en approchait, il la chérissait davantage. C'était un autre lien de la chair s'établissant, et comme le sentiment continu d'une union plus complexe. Quand il voyait de loin sa démarche paresseuse et sa taille tournée mollement sur ses hanches sans corset, quand vis-à-vis l'un de l'autre il la contemplait tout à l'aise, et qu'elle prenait, assise, des poses fatiguées dans son fauteuil, alors son bonheur ne se tenait plus. Il se levait, il l'embrassait, passait ses mains sur sa figure, l'appelait « petite maman », voulait la faire danser et débitait, moitié riant, moitié pleurant, toutes sortes de plaisanteries caressantes qui lui venaient à l'esprit. L'idée d'avoir engendré le délectait. Rien ne lui manquait à présent. Il connaissait l'existence humaine tout du long et il s'y attablait sur les deux coudes avec sérénité. Emma d'abord sentit un grand étonnement, puis eut envie d'être délivrée pour savoir quelle chose c'était que d'être mère. Mais ne pouvant faire les dépenses qu'elle voulait, avoir un berceau en nacelle avec des rideaux de soie rose et des béguins brodés, elle renonça au trousseau dans un accès d'amertume et le commanda d'un seul coup à une ouvrière du village sans rien choisir ni discuter. Elle ne s'amusa donc pas à ces préparatifs où la tendresse des mères se met en appétit, et son affection, dès l'origine, en fut peut-être atténuée de quelque chose.
Emma Bovary est donc mécontente de ne pas pouvoir vivre totalement sa grossesse selon son fantasme, alors même que son mari la gâte, ma foi, autant qu'il peut. C'est un personnage intéressant, on s'intéresse peut-être pas assez à Charles Bovary quand on lit ce roman, Yvan Leclerc.
Oui, alors pourtant il est présent dès le titre, parce que Bovary, c'est son nom à lui, Madame Bovary, le drame du personnage, c'est qu'elle disparaît, que Emma disparaît dans le titre lui-même. Elle est son destin est circonscrit dans ce statut de femme mariée. Et dans le sous-titre, meurt de province, circonscrit en plus dans la province, qui est au XIXe siècle, synonyme de médiocrité et d'ennui.
Rappelons pour mémoire qu'elle s'appelle Emma Rouault, voilà.
Oui, que Emma son Rouault, nom soit mais il n'y a rien d'Emma Rouault, comme lui dit Rodolphe quand il lui fait la cour au moment des comices, vous portez le nom d'un autre. Et cette altération-là, cette altérité est aussi une altération.
D'un autre qui a déjà eu une femme.
Absolument.
Avant elle.
Il y a trois Madame Bovary, en fait. Il y a la mère qui est insupportable, et il y a la première épouse Héloïse qui disparaît très vite, et puis il y a cette deuxième Madame Bovary, Emma, qui va retrouver le bouquet de mariage de la précédente. Elle arrive après.
Et du coup, elle se demande, en retrouvant ce bouquet de mariage, ce qui va bien pouvoir lui Absolument. Arriver à elle. Il y a un présage quand même.
Elle fait brûler le bouquet de mariage. Hein, il brûle. Pour revenir à Charles, c'est un personnage intéressant. Sartre soutient le paradoxe, mais finalement qui est tout à fait fait intéressant que Charles est peut-être le personnage principal du roman, parce qu'on commence avec lui, on termine avec lui, on termine avec sa mort. Plus exactement avec eux-mêmes. Enfin bon, c'est, il survit en quelque sorte. Et au fond, ce qui est intéressant dans l'itinéraire de Charles, c'est que il se bovarise. Il y a cette phrase extraordinaire, Emma le corrompait par-delà le tombeau. C'est-à-dire qu'il se rend compte après la mort d'Emma de son insuffisance et il va se mettre à la hauteur du rêve de sublime d'Emma. Donc c'est un personnage touchant qui est vide. Après sa mort, on l'autopsie et on ne trouve rien. C'est extraordinaire parce que trouver rien, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan physiologique, c'est-à-dire on n'a pas les causes de la mort et en même temps on a l'impression que c'est un personnage tout en surface et qui n'a pas d'intériorité. Mmh. Et donc il est bon, Emma lui dira ça sur son lit de mort, tu es bon toi, et en même temps qui est satisfait de lui-même, qui est satisfait de la médiocrité. Au fond, c'est un homme qui aspire à un bonheur commun, c'est un homme du commun. Alors qu'Emma vit dans l'exceptionnel, mais comme, d'où la mésentente.
Comme vous le disiez, Yvan Leclerc, Emma va instiller chez lui une dose terrible de ce poison du romantisme. Et au moment où sa femme meurt, il s'enferme dans son cabinet, il prend la plume, il sanglote quelque temps et il écrit « Je veux qu'on l'enterre dans sa robe de noces avec des souliers blancs, une couronne. » On lui étalera ses cheveux sur les épaules, 3 cercueils, 1 de chêne, 1 d'acajou, 1 de plomb. Qu'on ne me dise rien, j'aurai de la force. On lui mettra par-dessus tout une grande pièce de velours vert. Je le veux, faites-le. Est-ce qu'il est devenu tellement romantique qu'il va mourir finalement assez rapidement aussi, ce personnage, comme sa femme avant lui?
Bien sûr, d'une certaine manière, il meurt d'amour. Comme Salammbô à la fin du roman, deuxième roman de Flaubert, du roman éponyme. Mais ça, il n'y a pas de trace quand on meurt d'amour. Et c'est pour ça aussi qu'on ne trouve rien. Et là, il se hausse à la hauteur de ce qu'Emma aurait voulu qu'il fût, mais de son vivant. Et ça, c'est un aspect tout à fait extraordinaire dans cette manière de retourner le personnage.
Qu'est-ce que ça nous dit de la vision de l'amour de Flaubert, selon vous ?
Ah ben c'est très simple, c'est que il y a constamment un décalage chez Flaubert et un chiasme, c'est-à-dire quand l'un aime, l'autre n'aime plus et réciproquement, où les amours ne sont jamais au même niveau de passion ou de compréhension. Mmh.
Elle se répétait. J'ai un amant, se délectant à cette idée comme à celle d'une autre puberté qui lui serait survenue. Elle allait donc posséder enfin ces joies de l'amour, cette fièvre du bonheur dont elle avait désespéré. Elle entrait dans quelque chose de merveilleux, où tout serait passion, extase, délire. Une immensité bleuâtre l'entourait, les sommets du sentiment étincelaient sous sa pensée, et l'existence ordinaire n'apparaissait qu'au loin, tout en bas, dans l'ombre, entre les intervalles de ses hauteurs. Alors, elle se rappela les héroïnes des livres qu'elle avait lus, et la légion lyrique de ces femmes adultères se mit à chanter dans sa mémoire avec des voix de sœurs qui la charmaient. Elle devenait elle-même comme une partie véritable de ses imaginations et réalisait la longue rêverie de sa jeunesse en se considérant dans ce type d'amoureuse qu'elle avait tant enviée. D'ailleurs, Emma éprouvait une satisfaction de vengeance. N'avait-elle pas assez souffert? Mais elle triomphait maintenant. Et l'amour, si longtemps contenu, jaillissait tout entier avec des bouillonnements joyeux. Elle le savourait sans remords, sans inquiétude, sans trouble.
Une lecture par Georges Clès. Est-ce qu'on peut récapituler un petit peu, Yvan Leclerc, les différents amours d'Emma? Il y en a de platoniques, il y en a qui ne le sont pas du tout d'ailleurs.
Il y a deux amants et en fait il y a trois temps que Flaubert distingue bien dans les plans. Léon 1, Rodolphe et Léon 2. Il y a d'abord une période d'amour platonique, comme vous disiez, au début de l'installation à Tôte.
Ça fait partie de l'idéal romantique aussi, hein, l'amour platonique.
Qui fait partie de l'idéal romantique, c'est ce que Flaubert appelle l'amour frais. Dans ces brouillons. Il y a ensuite l'amour passion avec Rodolphe, l'amour charnel, la découverte de l'amour charnel. Et puis, après la rupture avec Rodolphe, les retrouvailles avec Léon qui se font au début de la troisième partie au moment de la représentation de Lucia de la Mère Mort au théâtre de Rouen. Et là, c'est un amour que Flaubert appelle l'amour âcre, un amour violent. Alors qu'Emma s'est détachée de ses modèles, c'est-à-dire dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Emma s'identifie au modèle qu'elle a lu. Et il y a une sorte ici d'éloge de l'adultère triomphant qu'on va reprocher à Flaubert au moment du procès. Mais ensuite, dans l'épisode précisément où elle assiste à la représentation d'Ulcha de la Mère Mort, elle prend conscience que la littérature est mensongère, que la littérature exagère. Et c'est ce qui fait le drame du personnage, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas prisonnière de l'imaginaire jusqu'au bout, mais il est trop tard.
Mais pourquoi il est trop tard? Parce que ça devrait suffire finalement à la sauver.
Il est trop tard parce que elle est engagée dans un processus amoureux qui la mène à la destruction. Et les images de mort sont constantes dans le roman. La mort est programmée dès le début. Enfin, il y a des images funestes, funéraires qui arrivent. Et en particulier dans la description d'Yonville. Quand on regarde la description d'Yonville, du petit village, il y a deux cimetières. Et le village est entouré par deux cimetières, l'ancien et le nouveau. Comme si la vie d'Emma était enserrée. Et lorsqu'elle va chez... là où elle a mis la petite Berthe, sa fille, en pension, il faut prendre la route du cimetière. Lorsqu'elle va donc chez la mère Rollet qui est cette nourrice, la dernière visite qu'elle fait avant d'aller prendre l'arsenic, c'est elle prend aussi la direction du cimetière. Donc ça, c'est une fatalité comme dans le roman antique qui va peser constamment sur son destin.
Alors parmi les amours d'Emma, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi à un certain moment son mari, puisque quand il pratique l'opération du pied beau, elle a le sentiment que tout d'un coup son mari est redevenu digne d'intérêt, et parce qu'il est héroïque d'une certaine manière, et avant que cette opération finalement ne s'avère un échec, elle va de nouveau l'aimer.
Ah, elle aurait aimé l'aimer, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'effectivement,
elle va se rapprocher un peu de lui quand même.
Oui, elle aurait aimé. Charles est poussé à faire cette opération du pied beau, à la fois par Homais qui voudrait qu'on parle de Yonville dans le journal, hein, parce que ce serait un titre de gloire pour la petite commune, et par Emma qui en attend un retour de vertu vis-à-vis de son mari. Mais évidemment, c'est un échec. Donc, ce que vous dites reste à l'état de virtualité. Mm-hmm. Et Charles, justement, ne se hausse pas à ce niveau d'héroïsme. Et il y a une circonstance aggravante en plus, c'est que Charles, n'étant pas médecin, mais officier de santé, n'a pas le droit légalement de faire cette opération. Donc il est en contravention avec la loi, ce que les contemporains comprenaient. L'officier de santé avait le droit de faire simplement des petites incisions minuscules, mais pas ce genre d'opération. Donc on le pousse à dépasser ses propres compétences, ses propres capacités et l'autorisation qu'il a dans l'exercice de son métier. Et c'est un échec d'autant plus retentissant que Emma avait mis tous les espoirs de retour vers son mari dans cette opération.
Quelle est la grande scène, selon vous, le grand épisode de ce roman?
Sans doute les comédies. Sans doute les comices agricoles au milieu du roman, chapitre 8, deuxième partie, si je me souviens bien, où là Flaubert fait quelque chose d'extrêmement moderne, qu'il appelle une symphonie, mais qui est plutôt une cacophonie, qu'il va organiser sur trois niveaux spatiaux et en même temps de discours, où on a en bas le bas-peuple des paysans qui vient pour les récompenses du comice agricole. Sur une estrade, le discours officiel du sous-préfet avec ce qu'on appellerait aujourd'hui la langue de bois, et puis à l'étage de la mairie
dominant
le
tout, aussi, quand même.
Et la vulgarité bien sûr, et puis à l'étage, oui, parce que et à l'étage dominant le tout, le discours de séduction de Rodolphe vis-à-vis d'Emma. Et là, on a, alors Flaubert va pratiquer ce qu'on appellera après le cut-up, et y compris dans ses brouillons d'ailleurs, parce que il développe simultanément les trois textes, et après il prend ses ciseaux pour monter une sorte d'interférence entre ces trois niveaux de discours, si bien qu'il y a des télescopages ou des dissonances entre ces différents discours. Le discours faussement poétique de la séduction pseudo-romantique de la part de Rodolphe, le discours officiel fait de clichés, d'idées reçues, et puis le discours de la trivialité ou de la vulgarité de ceux qui sont récompensés pour les veaux, les vaches, les cochons à l'étage inférieur.
Et ça donne un texte qui est presque comique.
Ah oui, oui. Alors, Flaubert appelle ça le grotesque triste, c'est-à-dire que c'est un rire, mais qui est un rire un peu particulier, c'est-à-dire un rire qui est habité par, comment dire, par une distance qui est de l'ironie, mais qui n'est...
Une raillerie ?
Comment ?
Une sorte de raillerie ?
Qui est de la raillerie, mais qui n'est jamais commentée pour elle-même. C'est-à-dire que, on est loin d'un... C'est de l'ironie au sens romantique qui s'ironise elle-même. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui a une cible qui serait commentée directement par le narrateur, mais l'ironie naît du télescopage des choses elles-mêmes. On parlait tout à l'heure de l'importance des objets et des choses. Les choses envahissent le roman, mais sont les choses elles-mêmes qui sont ironiques d'une certaine manière. Le fait, par exemple, que le jour de l'enterrement, il fait beau. Ça, pour Flaubert, c'est l'ironie de la nature ou l'ironie
noir,
des
ça.
Choses.
Comment ? C'est de l'humour noir.
C'est de l'humour noir, mais ce sont les choses qui sont ironiques. C'est-à-dire, quand on parle d'humour noir, c'est en général un humour qui est produit par quelqu'un. Et là, ce sont les choses elles-mêmes d'où surgit l'ironie de l'histoire.
Est-ce que cette scène était prévue dans le plan de Flaubert? Parce que Flaubert, tirant les leçons de ce qu'il considère comme des échecs antérieurs, a le sentiment que c'est par le plan qu'il va réussir à faire un grand roman. Yvan Leclerc, on peut peut-être dire un mot justement sur la composition, le plan de ce livre.
Oui, alors vous disiez que Flaubert se met à écrire en septembre 51, c'est tout à fait vrai, simplement il se met à écrire ce qu'il appelle faire des phrases ou se mettre au style, après 3 mois de préparation. C'est-à-dire quand il rentre d'Orient en juin, juillet 51, il commence à écrire Madame Bovary, et là il consacre, ce qui sera le cas pour la quasi-totalité des romans à venir, 2 ou 3 mois à la préparation. Et il fait d'abord des plans, des scénarios sommaires, et puis il détaille progressivement. Donc, dans le plan initial dont je parlais tout à l'heure, les comices ne sont pas là. Ils apparaissent en marge, et puis ensuite ils vont être développés dans les plans successifs. Alors, Flaubert appartient à cette catégorie d'écrivains qu'on appelle les écrivains à programme. C'est-à-dire, avant de se mettre à écrire, il sait très exactement où il va aller.
Un peu comme une dissertation littéraire au bac.
Alors, justement, c'est ce que j'allais enchaîner là-dessus, parce que il y a plusieurs manières de procéder. Il y a des étudiants à qui on conseille, d'ailleurs c'est le conseil qu'on leur donne, de commencer par jeter des idées dans le désordre, après les organiser selon un plan, et puis de se mettre à écrire lorsque toutes les idées sont en place. Mais il y a d'autres élèves...
Flaubert ne faisait pas ça.
Alors si, Flaubert faisait ça.
Ah, si, il faisait ça.
Il avait appris probablement ce genre de programmation à partir de l'école. Mais il y a d'autres candidats, d'autres personnes qui sont plutôt des écrivains qu'on appelle, ou des écrivains qu'on appelle à processus, et qui, après avoir un petit peu réfléchi, se lancent dans la rédaction, une phrase entraîne une autre, et au fond, leur pensée se structure en se faisant. Il y a un autre écrivain très célèbre qui écrit de cette manière, c'est Stendhal. Stendhal dit qu'il fait jamais de plan parce que ça le glace. Et s'il faisait un plan, il serait pas sincère. Donc il faut qu'il y ait une sorte de premier jet qui garantit le naturel de l'expression.
Donc on a le droit de suivre sa nature le jour du bac.
Hein. Absolument. Et il faut surtout suivre sa nature et ne pas, le jour du bac, aller contre la nature que l'on a développée pendant toutes les années antérieures, parce que ce serait une catastrophe. Donc on fait confiance à sa nature, et il est trop tard de toute façon pour en changer quand on se trouve devant un sujet.
Bon, alors la nature de Flaubert, revenons-y. Comment travaillait-il son plan? On sait que c'était un très gros travailleur. Il copiait, il recopiait. Vous dites même qu'il ruminait. Quelle était l'organisation finalement de sa pensée en travail?
Ouais, c'est lui-même qui parle de ruminer. C'est un verbe qu'on trouve d'ailleurs pour Charles. Il rumine sa digestion comme longtemps après quand on a mangé des truffes. Enfin, il y a une image très très concrète et très parlante qui est une image animale précisément.
Bovary, c'est aussi un nom qui rappelle le bœuf.
Ah bah oui, oui, il y a la filière bovine que l'on trouve dans le texte. Le maire de la ville de Yonville s'appelle Tuvache. Léon va épouser une Léocadie, le bœuf. Enfin bon, c'est évidemment un clin d'œil à la Normandie, à la ruralité constante dans le texte. Mais j'ai oublié votre question.
C'était sur la rumination, justement, ouais, et la façon dont travaillait Flaubert.
Ouais. Alors, la rumination, quand on parle de rumination, on parle de travail mental. Or, Flaubert devait bien penser à son roman entre 2 pages d'écriture, mais ce que l'on a conservé laisse à penser que Flaubert travaillait constamment, enfin, composait son roman la plume à la main. Il travaillait une petite dizaine d'heures par jour, tout le temps. Et
C'est un bel horizon pour les étudiants. Ça.
C'est un bel horizon pour les étudiants. 4 ans et demi de travail. Et quand on regarde les 4500 pages raturées et que ça donne à peu près 350 ou 450 pages selon les éditions du texte imprimé, on voit ici la proportion qui est de 10 pour une. Mm-hmm. Flaubert écrit et rature 10 pages pour une. D'abord, il commence par amplifier considérablement son texte. Et puis ensuite, il le rétrécit pour recentrer sur l'essentiel.
Mais voilà encore une technique que les élèves de première pourront utiliser le jour du bac dans 3 semaines. Merci beaucoup, Yvan Leclerc. Je rappelle que vous êtes professeur de lettres modernes à l'université de Rouen, spécialiste de Flaubert et directeur du Centre Flaubert, auteur notamment de Madame Bovary au scalpel, paru chez Classique Garnier en 2017. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Laurence Millet, Laurence Genepin, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Garance Mazelier et Clément Daté. Demain, pour continuer notre parcours au sein de quelques grandes œuvres de la littérature française qui peuvent être utiles aux futurs bacheliers, nous parlerons de Cyrano de Bergerac. Ce sera avec Jean-Yves Guérin. Et puis n'oubliez pas que nos semaines bac des années précédentes restent disponibles en podcast. Tout de suite, la poésie, Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour à tous. Il croyait avoir construit une méthode à faire dire à sa bouche tout ce qu'elle veut. Il voulait la plier, la travailler, la soumettre tous les jours à l'entraînement, respirer, l'affermir, l'assouplir, la muscler par l'exercice perpétuel, jusqu'à ce qu'elle devienne une bouche sans parole, jusqu'à parler une langue sans bouche, comme un danseur qui voudrait toujours danser encore, danser plus loin, danser jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans l'espace. C'est de qui, ça? Ah, c'est un gars qu'on reconnaît bien, il n'y a que lui qui parle comme ça, à la fois bête comme chou, et puis savant et savantissime, il est comme possédé le Valère, Novarina. Aussi, nous lui dédions cette prière d'Antonin Artaud. Ah, donne-nous des crânes de braise, des crânes brûlés aux foudres du ciel, des crânes lucides, des crânes réels et traversés de ta présence. Fais-nous naître aux cieux du dedans, criblés de gouffres en averse, et qu'un vertige nous traverse avec un ongle incandescent. Rassasie-nous, nous avons faim, de commotions intersidérales, averse-nous des laves astrales à la place de notre sang. Détache-nous, divise-nous avec tes mains de braise coupante, ouvre-nous ces voûtes brûlantes où l'on meurt plus loin que la mort, fais vaciller notre cerveau au sein de sa propre science et ravis-nous l'intelligence aux griffes d'un typhon nouveau, finir avant le temps. Ça, c'est pour Artaud. Et pour revenir à Valère, j'ai toujours pratiqué la littérature non comme un exercice intelligent mais comme une cure d'idiotie. Je m'y livre laborieusement, méthodiquement, quotidiennement, comme à une science d'ignorance. Descendre, faire le vide, chercher à en savoir tous les jours un peu moins que les machines. Ça se trouve en ouverture sur son site internet, Valère Novarina. Ce dont on ne peut parler, c'est cela qu'il faut dire. Ça se trouve dans le Théâtre des Paroles, paru chez POL. L'intérieur n'est pas à l'intérieur de toi. L'extérieur n'est pas à l'intérieur de l'extérieur. Tu es à l'extérieur de l'intérieur. L'intérieur n'est pas à l'intérieur de l'intérieur. L'autre est à l'extérieur de l'autre. Rien n'est à l'intérieur de soi. Tu es à l'intérieur de l'intérieur. Rien n'est à l'extérieur de l'extérieur. L'autre n'est pas à l'extérieur de l'autre. Tu n'es pas à l'intérieur de l'extérieur. Parler, nous dit Valère Novarina, n'est pas échanger des choses, communiquer des mots sonnants et trébuchants. Parler n'est pas un échange marchand, un marchandage de mots vendus, de vérités à vendre. Parler est une renaissance à deux et un don. La parole se donne, ne s'échange pas. Il y a dans la parole humaine comme une danse et quelque chose qui s'offre, comme le don de parler qui se transmet, la transmission du don de parler que nous avons reçu.
Jacques Bonafé avec une semaine intitulée « L'étonnement d'avoir des mots » autour de l'artiste et homme de théâtre Valère Novarina.